Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Victor Hugo dit de lui qu'il est une espèce d'insomnie. Il peut survenir par expulsion, alors que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants tentent de traverser cette mer, symbole de vacances pour les uns et pour eux frontière avant le rêve européen. Moi, Laïla, je m'apprête à quitter la France qui ne veut plus de ma présence sur son sol. Il peut également venir de l'intérieur. Tu n'es plus là. Ma désespérance est telle, parfois, que je me sens étranger à ma propre vie. Je suis sur une drôle de route. Ma vie sans toi est une torture qui, tout au long de ces années, a fait de moi un être sans vie réelle. Il peut également s'imposer par conviction. Je ne regrette rien, pas une seconde de mes vies successives. Elles ont fait ce que je suis, Maria Florencia, née sous le soleil de l'Espagne, alors qu'un orage suivi d'une nuit profonde n'allait pas tarder à s'abattre sur nous durant toutes ces années. Il peut être également porté par un rêve, poursuivre ma route, toucher du doigt et m'approprier mon rêve. Non, ce n'est pas un rêve, mais un but. Je rêve de l'autre côté. Demain, je vais me réveiller en homme libre, en homme debout, et je cesserai d'avoir peur, de craindre pour ma vie. Telles sont les quatre routes de l'exil, les quatre destinées que nous propose de suivre Vincent Martorell dans son roman « Les routes de l'exil » paru chez Hello Éditions. Quatre cheminements, celui de Laïla, de Maurice, de Maria Florencia et de Sialé, à la fois différents mais qui se ressemblent et se croisent. Un roman qui nous rappelle que l'exil, bien que polymorphe, demeure toujours une sorte de renaissance doublée d'un deuil. Bonjour Vincent Martorell.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Présence. Nous allons essayer de voir un petit peu en détail votre version plurielle de l'exil. Ma première question, j'aurais tendance à vous demander, êtes-vous vous-même exilé ou vous considérez-vous comme tel ?
Directement, non, mais il y a une histoire familiale qui fait que cette situation, je l'ai touchée du doigt, puisque mon grand-père paternel a quitté l'Espagne au début du XXe siècle pour des raisons économiques, et ensuite, pour des raisons politiques, n'a jamais pu revenir chez lui. Donc c'était quelque chose qui était assez présent, même si on en parlait peu. Mais il y avait l'empreinte et l'ombre de ce grand-père qui avait décidé de sauver sa famille parce qu'il n'y avait plus rien à manger, tout simplement, et qui a quitté l'Espagne avec armes et bagages et deux enfants, mon père et ma tante, pour venir s'installer et travailler et essayer d'améliorer sa condition et celle de sa famille.
Donc, nous allons donc peut-être approfondir un petit peu plus tard, effectivement, les raisons qui vous ont fait pencher pour écrire sur l'exil, hein, parce que, je dirais, il n'y a pas de secret dans l'écriture, quelque part, il y a toujours quelque chose, un fond d'autobiographie, finalement.
Bien sûr.
Alors, peut-être avant, je voudrais un peu en connaître plus sur l'homme Vincent Martorell.
Oui.
Ce que j'ai réussi à savoir un petit peu, c'était donc que vous étiez né à Toulouse.
Je suis né à Toulouse, oui.
Voilà. Et que je ne sais pas si vous avez toujours été écrivain, ce que vous avez fait auparavant.
En fait, je me souviens du petit garçon que j'étais, qui devait avoir 8 ou 9 ans, et qui est allé voir sa mère un jour, qui était dans la cuisine. Et je lui ai dit, « Maman, je serai écrivain. » Et donc, ma mère s'est retournée avec un large sourire, et elle m'a dit, « Si tu souhaites être écrivain, fais-le. » Donc, il a fallu du temps, évidemment, de l'expérience. Je suis passé par différentes choses. J'ai fait de la musique pendant très longtemps, j'ai écrit des chansons, etc. Et puis, je suis revenu, je dirais presque, à mes premiers amours, qui sont l'écriture, qui est l'écriture. Et donc, il y a à peu près un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai décidé de me consacrer uniquement et pleinement à ce que j'appelle être un raconteur d'histoire.
Alors, le premier ouvrage que vous avez publié, je crois que c'est en 1985.
Alors, c'était le premier ouvrage que j'ai écrit. Mais c'est un livre qui s'appelle Les fils du temps, mais qui n'a jamais été publié. Par contre, la première publication remonte à 2010. C'est un roman qui s'appelle La Belle Endormie, qui avait été publié, en 2010, oui.
Alors, vous êtes à la fois, on peut dire, écrivain, dramaturge, vous avez écrit des romans, des pièces de théâtre, et j'ai même noté des comédies musicales. Alors, il se trouve que votre actualité aujourd'hui, c'est non seulement le livre dont nous allons parler, mais aussi une pièce de théâtre qui s'appelle « Le vol de la cigogne ».
C'est ça, tout à fait.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pièce de théâtre ?
Alors, il s'agit d'une pièce de théâtre à deux personnages, donc, qui sont joués par Clémence Roy et Julien Lassus, sur une mise en scène d'Ida Gallet. Et donc, c'est une pièce qui parle du désir d'enfant au sein d'un couple, et un petit peu de tous les états et toutes les étapes qu'ils vont franchir ou pas. Ça, il faudra... pas dire la fin, bien sûr.
Oui, jamais.
Et qui va les amener à se poser des questions, autant l'un que l'autre. Le personnage de Sarah et celui de Marc nous ressemblent. Et ils s'interrogent sur ce désir d'enfant. Mais j'ai voulu parler de ce sujet, qui est un sujet universel, qui nous touche et qui nous a tous touchés à un moment donné. Par le prisme de l'humour. C'est une pièce où on rit beaucoup, mais aussi où je me suis permis d'égratigner pas mal de choses de façon très très volontaire et un petit peu de manière taquine, je dirais.
D'accord, c'est une pièce taquine.
Si on veut.
D'accord. Alors, je rappelle que cette pièce se jouera les 13 et 14 janvier 2023,
c'est ça.
À l'Union des Arts, qui se trouve à Toulouse, au 8 rue Clément.
Oui, c'est à côté, en fait, de l'avenue de la Gloire. Voilà, donc si vous voulez vous y rendre, on peut déjà dire comment on peut y aller. Il y a une ligne de bus, le bus 23, vous descendez à la station Savignac, et vous avez une centaine de mètres à faire à pied et vous arrivez à l'Union des Arts où on sera ravis de vous accueillir les 13 et 14 janvier.
Bon, parfait. Nos auditeurs auront noté, mais de toute façon, ils pourront le retrouver sur notre site internet. Globalement, avez-vous des thèmes de prédilection dans votre écriture ? Est-ce qu'il y a des thèmes récurrents ?
Il y en a un et c'est très... Je m'en suis rendu compte très récemment. En fait, c'est la résilience. Je me suis rendu compte que la plupart de mes romans, voire même de mes nouvelles, parlaient de la résilience. Parlaient de cette difficulté, quelquefois, que nous avons tous à franchir des étapes, quelle que soit d'ailleurs la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés, et que ce soit dans les roues de l'exil, ou peut-être on en parlera tout à l'heure, dans L'adieu aux larmes, là, qui est un roman qui va sortir mi-décembre, où justement, là encore, c'est la situation d'un homme qui doit faire face à un deuil. Et c'est vrai que cette résilience, qu'elle soit liée à la perte d'un être cher, ou à un changement de situation, ou à un événement grave, nous amène tous à nous poser des questions et à peut-être arrêter notre course folle et à regarder autour de nous et à se dire, bon, maintenant, je fais quoi ?
Alors, la résilience, c'est effectivement un thème très intéressant quand on le met en perspective par rapport au sujet de l'exil.
Tout à fait.
Alors, en lisant votre livre, j'hésite toujours à essayer de qualifier, Et alors, je suis un petit peu hésitant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre, aussi bien au niveau des sujets abordés que de la forme. Je me posais la question si c'était des portraits croisés, une chronique sur l'exil, un roman d'amour, une histoire de solitude, un récit sur les tempêtes de la vie, ou une parabole sur la dignité et la destinée.
Je crois que c'est un peu tout ça à la fois. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour l'introduction de l'émission et les extraits que vous avez choisis, parce qu'effectivement, ils résument bien tout à fait le contenu de ce livre et, disons, la couleur générale de ce livre. Est-ce qu'on peut parler d'une couleur générale, d'un décor, en fait, qui est celui, évidemment, de l'exil, mais qui change, en fait, en fonction, évidemment, des personnages. Et oui, ce sont des personnages... C'est des personnages croisés, parce que j'ai voulu justement, plutôt que de traiter un personnage et passer ensuite au suivant, j'ai voulu faire une espèce de mélange, un petit peu comme des routes qui se croisent, c'est d'ailleurs ce qui a donné le titre au roman d'ailleurs, et pour qu'on ait l'impression, qu'on ait plutôt le sentiment, pardon, de suivre pas à pas l'évolution de ces personnages. Que ça soit par exemple Maurice qui vit un exil intérieur, exil dont on parle peu finalement, mais pour lequel on a été confronté il y a pas très longtemps avec le confinement, etc. Et donc des gens qui se sont vraiment recroquevillés sur eux-mêmes. Et c'est vrai que ce personnage Maurice, il a vécu le grand amour, il a aimé quelqu'un vraiment. Et la perte de sa femme, en fait, le plonge dans une désespérance. En même temps, Sialé, qui est un jeune garçon qui décide d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, appelons-le comme ça, il y a aussi le souvenir de son père, hein, qui est très présent. Maria Florencia, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le prénom de ma grand-mère paternelle, d'ailleurs. C'est une façon aussi de lui rendre hommage. Elle aussi, elle a des souvenirs pleins les bagages. Quant à Laïla, en fait, c'est une jeune femme qui est prise dans une mâchoire administrative et qui, en fait, va devenir... qui va vivre un exil dans un pays où elle est née, mais qu'elle ne connaît pas.
Alors, on va revenir plus en détail sur chacun des personnages, parce que c'est intéressant. Peut-être, auparavant... j'aurais envie de vous demander quels sont les mots de l'exil pour vous spontanément. Alors, j'en ai noté plusieurs de mon côté, mm-hmm. qui, pour essayer de faire un petit peu, si on peut dire, une genre de cartographie du vocabulaire. Et il s'avère que tous ces mots-là couvrent des champs qui sont très nombreux, très vastes. Alors, ça va de l'exil géographique, économique, climatique, intérieur, existentiel, volontaire. Ça parle de départ, de voyage, d'errance, de fuite, d'expulsion, de résistance, de transit, de retour possible ou de retour impossible. Et il y a toujours aussi cette dualité, effectivement, c'est le désir d'ailleurs, le fait de vouloir changer de vie, de perte de repères, d'audace, de courage, de culpabilité, de terre natale, de terre d'accueil, de langue reniée ou langue perdue et de langue d'adoption, ce qui est très important pour les écrivains, de deuil, de renaissance, de renoncement au passé, et puis cette notion de déracinement, d'appartenance, etc., etc.
Pour moi, c'est un va-et-vient entre le désir de vivre et celui de survivre. Je crois que si je devais résumer, pour moi c'est ça l'exil. C'est l'impossibilité à vivre dans le lieu où on se trouve et qui pousse à partir, à quitter les gens qu'on aime, à quitter notre environnement et... recommencer une nouvelle vie qui est souvent synonyme du fait de survivre, d'apprendre une langue qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas bien, qu'on va devoir maîtriser, mais c'est aussi le regard des autres, le fait de puis l'absence aussi, le manque de racines. Tout d'un coup on se trouve déraciné, on est un petit peu comme un arbre qui a subi la foudre, quoi, en fait, c'est un peu ça. Et ensuite, l'exil intérieur, c'est aussi la même chose pour moi. Il y a de la survivance là-dedans. C'est pour ça qu'on parlait de résilience tout à l'heure. Et c'est vrai, pour moi, c'est quelque chose de... Comment dire ? C'est une évidence. Et écrire ce livre, ça a été une évidence. Et c'était impérieux d'écrire ce livre. C'est un livre qui trottait dans la tête depuis longtemps. J'ai fait d'autres choses avant. Mais là, celui-là, il m'a un peu chevillé au corps, si vous voulez. Alors, effectivement, par rapport à mon histoire familiale, mais pas que. Par le fait de me rendre compte qu'on a de la solitude, on a de la désespérance devant nous. Chaque jour, il suffit d'allumer la télé ou d'écouter la radio et de voir que des hommes, des êtres humains, en fait, n'ont pas d'autre choix que de partir de chez eux. Alors, pour des tas de raisons. Mais il se trouve, d'ailleurs, il suffit de les regarder. Il y a à la fois un espoir fou d'une vie meilleure et la désespérance, en fait, de laisser les gens qui sont proches d'eux, que ce soit la famille ou les gens qu'ils aiment, tout simplement.
Voilà, et on retrouve donc cette dualité, finalement.
C'est ça, exactement.
Voilà. Alors, en préparant l'émission... Et je suis tombé, alors je ne sais pas si c'est vraiment le hasard, sur la citation d'un historien qui s'appelle Edgar Quinet, je ne sais pas si vous connaissez, et qui donne une définition de l'exil qui m'a bien plu, et qui dit « Le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre et de n'y plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. »
Ben, c'est magnifique. Et c'est ça. Moi, dans mes souvenirs, mon grand-père, pour revenir à lui, c'est un homme qui ne parlait pas d'abord. Il ne parlait pas le castillan, il parlait le catalan. Et c'était important pour lui. Et c'est un homme qui, pour se déplacer, récemment, j'ai retrouvé son carnet de circulation. Où il, à chaque fois qu'il allait dans une ville pour travailler, puisqu'il était manœuvre, il devait se présenter dans un commissariat de police où il devait tamponner sa présence. C'est un truc de fou. Et cet homme-là, en fait, mes grands-parents donc étaient basés dans le sud de la France, c'était du côté de Nîmes, et il allait travailler parfois. J'ai vu des tampons en Savoie ou encore plus haut. Et il devait à chaque fois faire montrer patte blanche quelque part pour signaler aux autorités qu'il était là. Et donc on pouvait facilement, si l'envie venait, lui dire « Écoutez, on ne veut plus de vous, repartez. » quoi. Et c'est quelque chose d'inhumain. Il y a un côté très inhumain là-dedans.
Alors, sur le livre, vous avez choisi une photo. Alors évidemment c'est difficile de faire passer à la radio, mais on voit les pieds et les mollets d'une personne, donc pieds nus, qui a l'air de marcher
dans
le sable.
Oui.
Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer le choix ?
Pour moi c'est le symbole même du voyage forcé. C'est-à-dire, on part de chez soi et au bout d'un moment, on n'a plus de chaussures. Quoi. Et on marche dans le sable, en bord de mer, en espérant trouver une embarcation pour pouvoir passer de l'autre côté ou du moins essayer de trouver un moyen de passer la frontière. Cette photo, elle est très symbolique. C'est vrai que quand Guillaume Giboulot, mon éditeur là, aux éditions, chez Hello Édition, m'a proposé cette photo, parce qu'il m'a proposé tout un tas de photos, lui et son équipe, que je remercie au passage d'ailleurs. Et celle-là, là aussi, ça m'est apparu comme une évidence. D'abord parce qu'il y avait du mouvement, parce que je ne voulais pas quelque chose de trop statique dans la représentation et dans la première de couverture de ce roman, et je trouve qu'elle est symbolique. Elle est symbolique. Après, les premières de couverture des livres, c'est une grande discussion qui pourrait occuper des heures et des heures d'entretien. Mais celle-ci, moi, quand je l'ai vue, en tout cas, Je dis, c'est celle-là que je veux, quoi.
Bien, maintenant, nous allons faire une petite pause musicale.
Avec plaisir.
Que je vous laisse découvrir.
D'accord, merci.
Déjà nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inch'Allah. On a de mauvaises chaussures. L'argent cousu dans nos doublures. Des passeurs doivent nous attendre. Le peu qu'on a, ils vont le prendre. Et après, est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers sont armés? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien. Sauf que chez moi, sauf que chez moi y a rien. Pas de salon, pas de cuisine. Les enfants mâchent des racines. Tout juste un carré de poussière, un matelas jeté par terre. Au-dessus, Inch'Allah. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres. Tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée? Je n'en sais rien. Est-ce que les douaniers vont tirer? On verra bien. Si on me dit c'est chacun chez soi, moi je veux bien, sauf que chez moi. Sauf que chez moi, y'a rien. Je n'en sais rien. On verra bien. Moi, je veux bien, sauf que chez moi. La moitié d'un échafaudage. Demande pas davantage. Un rien, une parole, un geste. Donnez-moi tout ce qu'il vous reste. Et après, je n'en sais rien. On verra bien. Moi, je veux. Sauf que chez moi.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
très belle chanson de Cabrel, African Tour. Nous sommes en compagnie de Vincent Martorell pour son roman Les routes de l'exil, paru chez Hello Éditions. Vincent Martorell, vous avez non seulement écrit un roman, mais avec ce roman, il y a, je dirais, une bande-son.
Oui, exactement. C'est une habitude de travail. Et depuis quelque temps, je mets la liste des chansons qui m'ont accompagné pendant l'écriture de mes livres, et notamment sur les routes de l'exil, où il y a cette chanson de Cabrel, effectivement.
Alors cette chanson de Cabrel, vous me l'avez suggérée, et effectivement, elle correspond tout à fait à un certain moment du livre. Oui. Alors, je rappelle les paroles de cette chanson. Vous vous imaginez peut-être que j'ai fait tous ces kilomètres, tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Et ces paroles-là rebondissent sur les vôtres lorsque vous expliquez que s'y aller, à un moment donné, se heurte au milieu de son parcours d'exil à des grillages.
Exactement.
Qui vont peut-être contrarier son projet. Alors, peut-être vous pouvez nous lire un petit extrait.
Je vous lis un court extrait donc, de Cécile qui s'exprime. Ici, la nuit vient de tomber, seulement illuminée par des braseros autour duquel nous sommes des dizaines à nous agglutiner en silence. Je regarde autour de moi. Ils ont dressé des grillages suffisamment hauts pour que nous n'entendions rien. Mais comment aller quelque part sans argent, sans nourriture ? Combien de temps allons-nous rester ici ? Pourrons-nous rejoindre notre terre promise ? Le voyage est-il terminé ? Va-t-il s'achever ici et ainsi ? Je ne veux pas y croire.
Donc, on voit bien effectivement que tout ça rebondit sur vos propos. Et on verra un peu plus tard, au sujet de ce même Cialet, un passage que j'ai beaucoup aimé, qui décrit de manière très, très concrète le ressenti dans la chair et dans la souffrance
lors de la traversée
de ce parcours.
Oui. Voilà.
Alors, revenons 30 secondes au thème de l'exil. Alors, on a vu ensemble tout à l'heure qu'effectivement, quand on écrivait sur l'exil, c'est que quelque part, dans son vécu, on n'en était pas très loin. Il y a des exilés célèbres. Et alors, il y a des exilés célèbres, et par exemple, en faisant des petites recherches, si on peut dire, Adam et Ève étaient finalement les premiers exilés.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Donc c'est un thème vieux comme le monde, si on peut dire, si on peut dire. J'ai noté aussi que Ovid était le premier exilé politique et littéraire à une autre époque. Et parmi les grands exilés, naturellement, Victor Hugo, que j'ai cité au tout début. Dans la notion d'exil, il y a aussi le fait que on considère peut-être toujours que l'exil, il y a un départ et une arrivée, mais ce n'est pas forcément le cas. On a un exil qui est du nomadisme, qui est une difficulté justement
à s'implanter.
Et j'avais trouvé Mahmoud Darwish, qui est un poète arabe, qui disait, compte tenu des circonstances et du fait qu'il n'arrivait pas à trouver un endroit où lui et le peuple palestinien à s'implanter, que finalement ils étaient contraints de vivre dans une valise. Hein? Donc c'était un beau symbole. Voilà. Donc, plusieurs personnages dans ce roman.
Oui, quatre.
Ces personnages, ils sont tous un petit peu différents. Et ils correspondent chacun à une sorte d'exil. Alors, on va, si vous voulez bien, commencer par Layla.
Oui.
Comment vous qualifieriez l'exil de Layla ?
Alors là, je crois que c'est un exil, c'est une reconduite à la frontière, donc c'est contraint et forcé. Elle n'a pas d'autre choix que de retourner au Maroc, terre où elle est née, mais où elle n'a jamais vécu. Donc, elle a toujours vécu en France, elle a vécu avec sa mère. Et là, elle va être amenée à reprendre sa vie à zéro, complètement, avec une société différente de la société occidentale, on va dire, et qui va l'amener à aussi, je pense, à se battre davantage, enfin, à être plus combative. Mais le problème étant, est-ce que pourra-t-elle s'enraciner dans ce pays qu'elle connaît peu ?
Et ça pose d'ailleurs, le cas de Layla, ce problème d'intégration. Est-ce qu'il y a des prérequis pour l'intégration ? Est-ce qu'il y a une capacité, est-ce que c'est lié à une capacité de résilience plus ou moins développée ? Ou est-ce qu'il y a, je dirais, des grands paramètres ?
Dans le cas de Layla, en fait, il s'agit d'une intégration à l'envers. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui est parfaitement intégrée en France, qui suit des études et qui, tout d'un coup, est amenée à partir pour un pays pour lequel elle va devoir, où elle va être considérée, elle, comme une étrangère. Et par là même, faire face, même si elle va être entourée, même si elle n'arrive pas complètement seule, elle va quand même être amenée à devoir s'enraciner dans un pays qui, certes, l'a vu naître, mais où elle n'a jamais vécu, hormis peut-être quelquefois pour une courte durée pendant les vacances.
Et donc, c'est pas acquis ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Mais je dirais presque que je fais confiance à ce personnage, s'il faut, et elle va y arriver.
Elle a les ressources en elle-même.
Je pense que oui. Oui, oui, oui.
Et c'est vrai que dans le livre, au moment où elle arrive au Maroc, on sent que ça commence bien, qu'il y a des opportunités.
Elle rencontre ce chauffeur de taxi
qui apparaissent.
Qui la rassure en lui disant « Mais ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi, il n'y a pas de souci, tu n'es pas seule ». Ce qui n'est pas forcément le cas, dans le sens inverse, où effectivement un migrant qui arrive en Europe n'est pas forcément, pris en charge avec autant d'humanité. Alors que dans le cas de Layla, elle rencontre ce chauffeur de taxi et qui va la rassurer et qui est plein d'empathie par rapport à sa situation.
D'un autre côté, on sait aussi pertinemment que les émigrés qui sont en France ou en Europe, quand ils rentrent chez eux, n'ont pas forcément, toutes les conditions.
Oui, absolument.
Et parmi toutes ces conditions, au-delà de leur propre capacité, il y a la manière dont leurs compatriotes réagissent. En disant, finalement, il n'est plus trop des nôtres.
Voilà. C'est pas un compromis, c'est une espèce de savant équilibre qu'il faut trouver avec un dosage en disant certes tu es des nôtres et en même temps pas complètement parce que tu n'habites plus avec nous. Enfin, c'est très ambigu, c'est un peu psychologiquement c'est très déstabilisant.
Absolument, et ça pose de manière très très vive ce problème d'intégration. Dans l'autre sens.
Exactement,
finalement.
Tout à fait.
Alors, il y a un deuxième personnage qui est Maurice.
Oui.
Et auquel on peut attacher un exil totalement différent. Alors, qui est Maurice ?
Maurice, c'est un homme qui a construit sa vie avec son épouse, qui travaillait dans une usine de meubles, qui a fermé, etc. Et puis un jour, ils se sont installés dans un quotidien, mais où l'amour n'était pas absent, bien au contraire. Et puis un jour, malheureusement, son épouse décède et il se retrouve pris dans un tourbillon de tristesse, dans une espèce de cyclone d'amertume. Ça, il n'y a pas de méchanceté chez lui, en fait. Je veux dire, presque, il n'en veut à personne. Il s'en veut à lui, en fait, quelque part. Il s'en veut à lui d'avoir laissé partir la femme qu'il aimait, mais il n'y avait pas d'autre choix, malheureusement. Il ne pouvait rien faire. Et il vit dans le souvenir de cet être aimé. Alors certains pourraient penser qu'il s'y complaît, mais je pense que la douleur est tellement forte que tout lui rappelle la présence de sa femme.
Et quelque part, il est un petit peu dans le renoncement, parce qu'il a perdu ses repères, il est en solitude totale.
Oui.
Et
il est au bord, en fait.
Voilà, il est au bord, effectivement. Et c'est ce qu'on pourrait caractériser l'exil intérieur. D'ailleurs, vous citez à un moment donné, Maurice dit « Il m'arrive de plus en plus de hurler ma solitude. Je suis sur une drôle de route, je marche sur cette route qui est celle de mon propre exil, mon exil intérieur. »
C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il est au milieu de la société, il en fait partie, et en même temps, il s'en exclut. Car il ne veut plus entendre les bruits du monde. La seule chose qui pourrait lui faire dresser l'oreille, c'est la voix de son épouse, finalement. C'est ça qui le maintiendrait quelque part. Mais là, le silence est là. La lourdeur de l'absence, la perte. Et il ne voit pas l'intérêt, finalement, de... C'est vrai qu'on peut se dire, va-t-il attenter à sa vie, par exemple? Mais il y pense, bien sûr. Mais il sait que c'est pas la solution non plus. Donc, et finalement, il est aussi, il est prisonnier de sa propre douleur. En fait, il est enfermé dans sa douleur. Et en plus, il n'a personne à qui pouvoir justement la partager et peut-être améliorer sa condition. C'est une situation qui est terrible pour Maurice.
Il est complètement bloqué, et on sent aussi que au moment où il va léguer un livre, c'est à Marie Florencia.
C'est ça. Oui.
Il cite un poème de Garcia Lorca qui est très révélateur à ce sujet-là et qui dit. C'est quand l'homme sans liberté, c'est quoi l'homme sans liberté? Oh, Mariana qui est rayée, puisque c'est le nom le prénom qui est utilisé par le poète, qu'il remplace par Oh, Jeanne, dis-moi comment puis-je t'aimer si je ne suis pas libre, dis-moi. Comment t'offrir mon cœur s'il n'est pas à moi? Donc, effectivement, c'est vraiment la déclaration d'emprisonnement. Finalement.
C'est ça. Et en même temps, c'est une formidable déclaration d'amour qu'il fait à Jeanne.
Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je...
à notre survie. C'est là que j'ai poussé mon premier cri. Je suis née.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Toujours en compagnie de Vincent Martorell pour son dernier roman, Les routes de l'exil, paru chez Helio Éditions. Vincent Martorell, merci.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Donc, cette chanson fait partie intégrante finalement de la bande son.
Hein,
De ce livre.
Oui.
Alors, je rappelle les paroles parce qu'elles vont ricocher sur votre texte directement. Et là, devant nos yeux, il y avait l'ennemi, une immensité bleue peut-être infinie, mais oui, on en connaissait le prix, surgissant d'une vague, un navire ami a redonné sa chance à notre survie, et c'est là que j'ai poussé mon premier cri.
Et là, on retrouve le Cialé, en fait, qui a traversé en fait la Méditerranée et qui écrit, enfin qui dit, qui est encore en mer. L'aube recouvre la mer entière et la terre ferme semble encore bien loin. Nous sommes allongés en fond de cale pour reprendre des forces, mais nous ne pouvons pas dormir. Ma tête est pleine de cette rage de nous savoir encore là, perdus, dérivants. Le cri d'une sirène nous fait nous relever. Sommes-nous revenus à notre point de départ? Allons-nous devoir retourner dans ce camp en attendant que plus rien ne vienne? Un mégaphone résonne, une voix de femme dans une langue que je ne comprends pas un mot. Mais nous comprenons ce qui nous arrive. Un bateau où l'on distingue à peine un drapeau qui flotte, un pavillon barré d'une croix rouge, se dirige vers nous.
Donc c'est Cialé, c'est l'Africain qui va vivre des choses très difficiles, très
oui.
dures, aussi bien sur terre
que
sur mer, et qui finalement va réussir, porté par sa volonté, à arriver sur le continent.
C'est ça. Mais après une traversée extrêmement difficile, où ils sont abandonnés en pleine mer par des passeurs, et c'est vrai que quand j'ai écrit ce passage, cette traversée, il était impératif pour moi de me fondre quelque part de puiser les mots suffisamment justes pour bien montrer la résolution que Cialé, qui est malien. Mais pour pouvoir à la fois sauver sa peau, mais aussi sauver les gens qui sont autour de lui.
Alors, effectivement, on voit une certaine solidarité face à la difficulté, face à l'insurmontable, qui fait que ils vont s'en sortir, mais ils vont s'en sortir collectivement, et il faut voir à quel prix. Alors, il y a quelque chose que j'ai bien apprécié, c'est cette traque qui est opérée contre les...
Oui.
Contre ces migrants, où on voit qu'ils souffrent dans leur chair, vraiment.
Oui, parce qu'à un moment donné de son périple, s'y aller est victime d'une véritable chasse à l'homme qui va faire de lui un esclave. Et je suppose que c'est le passage dont
voilà,
vous voulez parler.
Voilà, tout à fait. Nous tentons... Alors, je distingue... Avec peine, mes pieds qui parfois heurtent une pierre qui vient entailler mes orteils. Les phares nous ont frappés dans le dos, éclairant la piste. Nous tentons de fuir, courant de toutes nos forces sur la piste, etc. etc., etc.
Voilà. Et donc, c'est encore un obstacle supplémentaire dans le parcours de Cialé et de ses compagnons de voyage qui va les amener à devoir subir la férocité et la bêtise de certains hommes.
Et face à cette férocité, face à cette bêtise, néanmoins, il va rester, je dirais, dans l'espoir absolu qu'il va y arriver.
Oui, c'est un espoir qui ne le quitte pas. Depuis le départ de son village, Il est motivé, il est même plus que motivé. Je ne sais même pas quel mot on pourrait employer pour parler de Cialé qui d'une part, n'a pas d'autre choix que de partir et qui, en même temps, est animé d'une volonté farouche de changer sa vie, tout simplement.
Il nous reste donc de 5 minutes. On va parler rapidement de Maria
Florencia.
Et ensuite, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu la construction, qu'on parle un petit peu de la construction
du livre.
Du livre.
Oula. Alors, peut-être vous voulez. On va peut-être commencer par là, d'ailleurs.
Oui.
En fait, moi, je travaille je fais des fiches de personnages, tout simplement.
Oui.
Hormis leurs caractéristiques physiques, je sais parfaitement qui ils sont, ce qui me permet de pouvoir mieux les accompagner, et eux aussi m'accompagnent. C'est un échange entre les deux dans l'écriture et dans la construction d'un roman. Et ça, j'ai mis au point, j'utilise cette méthode plutôt. Parce que pour moi, elle est importante de jouer sur la ce que j'appelle la caractérisation des personnages. Si mieux je connais mes personnages, et mieux je peux en parler, évidemment. Voilà, en grosso modo, si vous voulez. Après, la manière dont je travaille, j'écris plusieurs versions. J'écris plusieurs versions, en général. Et ça amène, en fait, à un roman comme Les Routes de l'Exil. Et pour parler, enfin, de Maria Florencia... Elle, c'est une femme dont les parents ont lutté contre Franco et qui, en venant en France, n'ont jamais dérogé à cette opinion qu'ils avaient et cet espoir aussi de revenir dans leur pays.
Alors, au niveau de la construction,
oui.
Je pensais...
On y revient.
5 minutes, parce que je voudrais le signaler aux auditeurs, c'est très habilement fait parce qu'il y a des groupes de chapitres avec des chapitres qui se succèdent dans le même ordre, sauf à la fin.
Oui.
Et il y a un groupe de chapitres qu'on pourrait intituler « Les ferments, le terreau de l'exil », un autre « La variété des situations », le suivant « L'élément déclencheur ou accélérateur », ensuite « Le point de non-retour », « Le basculement », et l'après, finalement, la réalité, la désillusion. Et donc, à ce titre-là, ce portrait croisé est quelque chose de très fin dans la manière dont c'est présenté.
Merci, merci beaucoup.
Donc, je voulais, donc, nous allons être obligés de conclure. Alors, ce qui est très joli aussi, c'est la fin de cet ouvrage. Mais bientôt, tel cet oiseau blanc qui vole en toute liberté, bientôt, très vite, je vais prendre mon envol et j'arriverai enfin à ma destination, laissant à jamais derrière moi toutes ces routes que j'ai parcourues, toutes ces routes de l'exil.
Et on ne dira pas quel est le personnage qui parle.
Exactement. Voilà, Vincent Martorell, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
D'être venu nous parler des routes de l'exil parues chez Hello Édition.
Hello
Édition, oui. Et je rappelle également la pièce de théâtre dont vous êtes l'auteur, Le vol de la cigogne, qui se jouera donc les 13 et 14
janvier, donc à l'Union des Arts, rue 8, rue Clément à Toulouse. Et les réservations sont ouvertes.
C'est bien noté. Merci Vincent Martorell, merci à nos auditeurs et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette émission.
Merci, au revoir.